Renault. Une petite voiture pour la ville, mais grande pour la vie. Petite pour se garer, grande pour tout emporter. Découvrez Renault Twingo E-Tech électrique. Petite à l'extérieur, grande à l'intérieur. Avec siège indépendant, rabattable et coulissant, longueur de 3,79 m. Renault Twingo E-Tech électrique. La petite grande voiture. Voir Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Ils sont nés entre 1990 et le début des années 2010. Ils ont donc entre 10 et 27 ans aujourd'hui. C'est la génération Z. Donc ils ont grandi avec un smartphone à la main. Ils communiquent en temps réel et s'informent sur les réseaux sociaux et ils travaillent autrement. Aujourd'hui, avec nos invités, nous tenterons de démêler le vrai du faux sur cette génération que nous côtoyons peut-être au quotidien. Le numérique pour tous, spécial génération Z, né dans le numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour commencer cette émission spéciale consacrée à la génération Z et au numérique, nous avons un observateur privilégié, co-auteur d'une étude pour Opinionway, Pierre-Étienne Bost, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Donc vous avez contribué à cette étude, vous avez interviewé plus de 1000 jeunes actifs, et on va commencer par une première idée reçue parce qu'on va débugger tout ça. Pour eux, le travail n'est pas important. C'est vérité ou mensonge ?
Ah, ça c'est plutôt faux en réalité, hein. On voit effectivement dans toutes les enquêtes que le travail est toujours important pour eux, en fait au même niveau que les autres classes d'âge. Alors ce qui peut nourrir un peu cette idée reçue, c'est que c'est pas la seule chose importante, c'est pas la priorité comme ça a pu l'être pour d'autres générations avant. Le travail, ça va être quelque chose qui va être arbitré par rapport à d'autres éléments de la vie, aux loisirs, à la famille, les amis, etc.
Alors justement, cet équilibre, comment ils arrivent à le gérer ? Est-ce que l'un est vraiment corrélé à l'autre ? On mélange un petit peu tout ? Alors est-ce qu'il y a une nette séparation ? Après 18 heures, on est vraiment dans le loisir et avant, on est dans le travail. Quel est un petit peu leur comportement par rapport au travail et à la vie privée ?
Il y a quelque chose d'assez... encore une fois, on parle vraiment d'arbitrage, c'est-à-dire que... ça va être très subjectif, donc parfois ça peut être un peu déroutant, mais on va être dans quelque chose qui va être vraiment du choix, de l'assemblage, de la recette, qui est un peu chacun la sienne, avec vraiment cet enjeu d'équilibre, de rien qui prend le pas sur l'autre, et d'une certaine flexibilité.
Alors c'est une génération qui est née avec un smartphone dans la main, on l'a dit, et c'est la génération du numérique. Est-ce que, quelque part, le numérique remet à plat les relations interpersonnelles, l'agenda, la notion de distance et de géographie ? Est-ce qu'on va toujours dans un bureau ? Ça leur semble complètement absurde.
Il faut bien voir que le numérique, pour eux, c'est un peu... c'est tellement, tellement partie intégrante dans l'environnement. C'est un peu comme la voiture pour certaines générations d'avant, où tout d'un coup, qui ouvre à de la mobilité, mais on n'y pense plus. Là, c'est pareil, ils n'y pensent plus. Ce qui a pu être une expérience quand même fondatrice, surtout pour ces jeunes actifs des générations Z, c'est l'expérience du confinement, de la crise du Covid, qui a permis, à la fois, qui a fait subir quelque chose qui a pu être un peu traumatisant et souffrant pour certains, mais qui a permis effectivement un autre apport au fonctionnement à distance et donc au travail à distance. Et c'est vrai que typiquement pour eux, le télétravail, permis par les outils numériques, est quelque chose de complètement ancré, mais qui va pas être quelque chose qu'on attend de manière complète et absolue. C'est-à-dire que pour eux, il y a quand même cette importance du lien qui fait que c'est pas ces générations Z qui vont demander 5 jours de télétravail par semaine. Ils vont être aussi dans cette recherche d'équilibre à ce niveau-là.
D'accord. Alors, une autre idée reçue, la génération Z change d'emploi tous les 2 ans. Ils tiennent pas en place, ils restent pas plus de 2 ans dans une société, alors que les générations un petit peu plus antérieures, elles pouvaient passer une vie. Vrai ou faux ?
Il y a une part de vérité, comme dans tous les stéréotypes. C'est-à-dire que quand on fait certaines enquêtes en mettant des items un peu par défaut, ce qui déteste le plus ces Gen Z, ce serait de rester bloqué 10 ans dans la même boîte ou de faire 10 ans le même métier. Mais ça, en fait, ça parle plutôt positivement de leur envie d'apprendre, de leur envie de découvrir des choses et de multiplier les expériences. Et donc, en fait, on voit que c'est une génération qui, au fait, est très engagée par rapport au travail. Ça, c'est souvent très surprenant. Mais l'engagement n'est pas forcément loyauté. C'est-à-dire qu'on va retrouver cette dimension un peu transactionnelle. C'est-à-dire, je suis engagé, mais tant que j'arrive à gérer mon équilibre, que j'arrive à répondre à mes attentes. Et donc, c'est ça qui fait que bah, s'il n'y a plus la réponse à mes attentes, je vais être par contre tout à fait capable de partir, aller voir ailleurs, sans ces enjeux, effectivement, de parcours, de carrière, qu'on a pu connaître et qui ont pu animer certaines générations précédentes.
Ah, donc ça veut dire, à travers ce que vous dites, qu'un manager ne devrait pas prendre personnellement et être offensé par le départ d'un Génération Z, c'est juste bah, ses aspirations le portent à aller ailleurs, mais il n'y a pas de déni ou alors de rejet, on va dire, de ce qui a été vécu.
Ça dépend du manager et de ce qui a été vécu, bien sûr.
Mais oui,
c'est assez juste et on voit même d'ailleurs hein, du côté des employeurs, je pense à des employeurs qu'on a pu interroger dans le monde de l'hôtellerie, par exemple, une forme de, pour certains, hein, une forme de fatalisme à se dire, bah ouais, on a des jeunes, on les forme, on leur apprend le métier, et puis ils vont partir. Mais peut-être que des années après, ils reviendront et que quelque part, surtout si on est un gros acteur, on fait le travail pour la collective du métier. Quoi.
Alors Pierre-Étienne, encore une vérité peut-être à débugger. La génération Z ne veut pas devenir manager. Elle veut pas prendre de responsabilité. Vrai ou faux?
Alors ça, c'est très faux. Hein, dans nos enquêtes, on le voit d'une part parce que pour eux, quand même, la prise de responsabilité managériale reste perçue comme quelque chose de nécessaire pour une vie professionnelle réussie. Mais en plus, ça fait envie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai désir de prendre ses responsabilités. Ce qui va être nouveau, c'est qu'on va y retrouver ses attentes et ses conditions de pouvoir avoir une vie globalement équilibrée, même en ayant des responsabilités.
Et il y a une incompréhension entre ces jeunes et les managers qui vont avoir peut-être 20, 30, allez, un peu plus, en plus que cette génération. Ils se comprennent ou pas?
Ça peut arriver, en fait. On a parfois vraiment des phénomènes que j'appellerais de désaccordage, hein, comme des instruments sont désaccordés, avec des managers, on va dire, je caricature un peu par simplicité, mais à l'ancienne, qui vont être dans des modèles encore très directifs, qui sont encore très prégnants hein, dans les entreprises françaises, et ces jeunes qui sont dans des attentes de quelque chose de beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus participatif, où il va falloir beaucoup plus expliquer, discuter, et ça peut créer des moments de vrai désaccordage. Et pour autant, on voit que beaucoup de managers aux prises avec les Gen Z s'y retrouvent, effectivement, ont besoin de déployer de vraies compétences managériales avec plus d'écoute et plus d'accompagnement. Et que dans ces cas-là, ça fonctionne en réalité.
Alors justement, si vous aviez un conseil à donner, aussi bien à l'employeur que l'employé, pour que ce désaccordage disparaisse ou pour qu'il y ait un accordage dès le départ?
Il y a du côté de l'employeur, comprendre finalement cette dimension, que ce référentiel un peu de représentation des Gen Z, qui est dans cette logique assez transactionnelle, d'avoir besoin de gérer cet équilibre de manière permanente et immédiate. C'est-à-dire qu'il faut oublier les parcours de haut potentiel à l'ancienne, où on va tordre quelqu'un dans tous les sens, parce que peut-être dans des années, il y aura une récompense. Non, il faut qu'il y ait quand même cet équilibre immédiat. Et penser à ça, y compris en pensant à des aspects qui pourraient paraître plus personnels. Je pense à la restauration, les horaires très décalés. Il faut penser à comment je peux proposer une solution de transport, voire même d'hébergement. On voit des choses comme ça. Et du côté de la Gen Z, il y a peut-être effectivement accepter d'attendre qu'en face, on a une entreprise qui a des enjeux qui, eux, doivent se projeter dans le temps, avec des engagements, de l'investissement, et que finalement, le transactionnel immédiat peut être un peu plus difficile. Et dans le rapport à l'autorité, peut-être aussi que, certes, on peut être, et c'est merveilleusement efficace d'être dans le collaboratif dans plein de sujets, mais qu'il y a des moments où il faut être dans le tranchant, dans l'efficacité, dans l'immédiat, et que c'est OK, que c'est pas quelque chose de personnel et une attaque contre la liberté du Gen Z.
C'est bien noté. Merci beaucoup Pierre-Étienne Boss pour Opinion Wear. Restez avec nous, on marque une courte pause de publicité et on se retrouve dans quelques instants avec un sociologue qui nous décodera pourquoi nous en arrivons à cette Génération Z. Génération Z née dans le numérique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.
Et pour continuer cette émission spéciale Génération Z et numérique, nous avons le plaisir d'accueillir un sociologue, Pascal Lardelier. Il est expert dans les transformations profondes de notre société et il est surtout l'ouvrage, on doit le citer, un excellent ouvrage, Le Nouvel Âge du complotisme aux éditions de l'Aube. Alors Pascal, on a déconstruit certaines idées reçues sur cette génération. J'ai envie de vous demander pour commencer, est-ce que c'est une génération à part ou c'est le produit logique de son époque?
Alors Vanessa, déjà, il faut quand même avoir un tout petit peu d'indulgence pour eux. Je ne dis pas que nous n'en avons pas. Depuis Platon, On adore critiquer la génération des jeunes, et il y a une phrase célèbre de Platon qui nous explique que les jeunes n'ont plus de valeur, n'ont plus de respect, etc., etc. Bon, ensuite, vous savez, Vanessa, nous sommes toujours les enfants de nos parents, autant que de notre époque. Vous venez de le dire. Or, une époque, qu'est-ce que c'est? Ce sont des technologies et des valeurs. Et il ne faut pas oublier que quand nous naissons, nous sommes dans une espèce d'immersion de valeurs. Alors les valeurs de la génération Z, venons-y, inclusivité, nomadisme, bien évidemment, et là on est au cœur du creuset numérique. Et puis vous savez, il y a un sociologue célèbre qui s'appelle Zygmunt Bauman, il disait que nous sommes entrés dans une société liquide. Eh bien la génération Z, elle est fluide. Elle est fluide. Elle s'affranchit des barrières, elle s'affranchit des identités de genre à certains égards. Elle s'affranchit, nous venons de l'entendre, des engagements trop lourds, trop longs, trop importants. Et donc c'est une génération, eh bien, qui a grandi. Le Covid est quand même passé par là pour les plus âgés d'entre eux. Et c'est une génération qui a compris qu'elle est dans un monde instable, qu'elle est dans un monde en métamorphose et qu'elle va être l'actrice de ce monde. Ça veut dire qu'elle est en quelque sorte dans un engagement désengagé. Et puis que c'est une génération, eh bien, qui va s'adapter selon les circonstances. Ça ne veut pas dire qu'ils sont désengagés, mais ça veut dire qu'ils s'engagent différemment.
Alors Pascal, j'ai envie de vous demander, le numérique qui est le sujet quand même essentiel, est-ce que c'est une cause, une conséquence, et est-ce que justement ça structure complètement cette génération?
Ça les structure en grande partie, Vanessa, notamment le rapport au temps. Le rapport au temps, puisque il a quand même induit un rapport au monde et aux autres instantané, le numérique. Donc c'est vrai que c'est une génération peut-être plus impatiente que la précédente, bien sûr. Et puis les relations se nouent en grande partie dans le numérique et par le numérique. Les sites de rencontres, les sites de réseautage, etc., etc. Donc ça, c'est indéniable. C'est une génération dont le numérique à qui le numérique a donné de nouveaux codes.
Alors j'aimerais que vous nous donniez un conseil, parce que comme vous le disiez en introduction, on a toujours tendance à comparer, à essayer de comprendre une génération en extrapolant sa propre génération. On a tout faux si on fait ça.
C'est pas évident parce qu'on regarde la génération qu'on analyse avec un regard biaisé. Hein, et c'est vrai que souvent, ce sont les gens qui nous voient fonctionner avec nos enfants qui nous disent où ça peut peut-être dysfonctionner alors qu'on ne le voit pas. Donc c'est vrai que cette génération Z, eh bien, il faut être indulgent, je le dis avec elle, parce que le monde qui vient, ça va être le sien quand même. Hein.
Pierre-Étienne Bost, en première partie d'émission, parlait du rapport au travail qui semble vraiment différent de celui de leurs aînés, avec une quête de sens, avec un équilibre vie perso ou vie pro. Il y a une vraie rupture culturelle qui est en train de s'opérer. Est-ce que, allez, dans encore 4-5 ans, on va voir des entreprises qui sont structurées un petit peu différemment eu égard à l'arrivée de cette génération?
Alors déjà, vous savez, on entendait qu'ils changent d'emploi bien plus que leurs aînés, leurs grands-parents par exemple. Je rappelle à mes étudiants qu'ils vont exercer au moins 5 métiers dans leur vie et que 75% de ces métiers n'existent pas encore. Donc on comprend combien cette génération doit avoir quand même une capacité d'adaptation incroyable. Et c'est pas l'arrivée de l'IA qui a 3 ans qui va démentir ce que je viens de dire quand même. Alors après, c'est vrai que c'est une génération qui a un rapport totalement différent à l'institution. Et l'institution, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est l'État en règle générale. C'est une génération qui va s'engager en ligne, qui va s'engager avec des clics, avec du crowdfunding, qui va être complètement différente de ce côté-là. C'est-à-dire que l'engagement long, les carrières au long cours dans une entreprise, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas travailler, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'engager ou manager, mais ils vont le faire différemment. Ils vont le faire à distance, ils vont le faire de manière transitoire, et c'est une génération qui a des codes complètement différents des nôtres.
Et l'importance de ce numérique fait que le lien social, le lien social physique, hein, va s'amoindrir. Comment on équilibre tout ça? Est-ce que leur communauté, elle est digitale? Est-ce qu'elle est, ils se retrouvent quand même dans des bars? Enfin, comment on arrive à évaluer un petit peu la part de ce qui est essentiel pour eux dans un emploi du temps?
Vous savez, Vanessa, le paradoxe cruel de notre société, c'est que nous sommes dans une société de communication dans laquelle l'épidémie, c'est la solitude. et nous sommes de plus en plus rencontrants, nous sommes de plus en plus communicants et nous sommes de moins en moins rencontrants. Nous sommes comme cette génération bardée de prothèses technologiques, mais le Covid est passé par là, la distance est devenue une espèce de nouvel impératif social et moral. Alors oui, ils se rencontrent en ligne, ils appartiennent à des tribus en ligne. Le succès d'une marque, ça va être par exemple la manière dont des followers ou des fans vont la faire monter sur Insta, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu différent. Leur engagement, bien évidemment, ils sont encore sensibles aux liens, ils adorent les apéros, ils adorent les sorties, ils adorent les festivals, mais c'est vrai que 50-50, ce sont des engagements in the real life, dans la vraie vie, et puis ce sont aussi des engagements numériques et numérisés, avec un nouveau tribalisme numérique.
Pascal, si on dit qu'elle est anxieuse, prudente, voire désenchantée, hein, est-ce qu'on la juge justement par notre propre prisme de lecture, ou alors c'est une réalité qu'on peut qualifier d'objective ?
Je pense que c'est une génération, et je le vois avec mes étudiants, qui est beaucoup plus dans le présent et le quotidien, et qui a une espèce de hantise ou d'indifférence à l'engagement au long cours. Alors on le voit pour les choix de carrière, on le voit pour des tas d'engagements, on le voit pour le rapport au couple et à la famille et aux enfants. Et c'est vrai que c'est une génération qui n'a pas ce rapport, j'y reviens, à l'institution que leurs parents et leurs grands-parents avaient. Les choses sont négociables, les choses sont liquides, je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une génération eh bien, dont les engagements seront différents, vraiment. On le voit notamment avec le couple aussi. Hein.
Oui. Concrètement, dans le couple, quelle est votre observation sur l'évolution ?
Des couples qui durent moins longtemps, des couples qui savent que on va peut-être partir faire de l'humanitaire à l'autre bout de la planète ou travailler dans une start-up et que les choses sont renégociées, renégociables. C'est vrai que c'est vraiment une génération qui a plus d'elle qu'elle a de racines, finalement.
Et vous avez l'impression que c'est la génération du « je veux tout de suite », eu égard justement à ce numérique qui permet d'avoir tout de suite, hein, « je veux, je commande, je clique ». Est-ce qu'on peut la qualifier ainsi ?
C'est une génération du haut doigt et à l'œil, hein, et je fais bien évidemment référence au smartphone. C'est une génération qui a ce réflexe relationnel et de communiquer, de consommation, de se dire que on clique, on reçoit. On l'a vu avec une célèbre marque chinoise récemment. Hein, les aînés critiquent la marque, mais elle a du succès aussi parce qu'on achète. Hein. Donc c'est vrai que c'est une génération. Pour revenir à l'influence du numérique sur la perception cognitive du monde, Vanessa, c'est une génération qui est probablement très impatientes. C'est une génération impatiente et c'est une génération, me semble-t-il, qui a une résistance bien moindre à la frustration.
Concrètement, si on devait décrire la société de demain avec justement cette génération qui prendra les manettes de la société, comment la décririez-vous ? Est-ce qu'elle est capable d'appréhender ces guerres, ces mouvements, d'avoir une approche structurante ou comme vous dites, comme tout est liquide, est-ce que c'est suffisamment solide ? Est-ce que les valeurs sont suffisamment solides pour être confrontées à quelque chose de complexe et de compliqué ?
Alors déjà, la génération, c'est pas un bloc homogène. Hein. Il y a des personnes qui vont se distinguer, qui vont prendre les manettes de l'économie et des institutions parce que ils ont été formés pour ça, ils ont des aptitudes pour ça. Donc déjà, je crois que les institutions se perpétueront, même si on en dit beaucoup de mal, même si on dit que c'est plus ce que c'était, etc., etc. Donc après, je pense que c'est une génération, oui, qui agira différemment. Parce que de toute façon, des choix vont nous être imposés par les crises climatiques, par les crises politiques, par les crises sociales. Je crois que des aménagements, des adaptations vont être imposés et cette génération composera par la force des choses, bien évidemment. Même s'ils ne fonctionneront pas comme leurs grands-parents l'auraient fait probablement, avec un engagement plus fort, etc.
Merci beaucoup Pascal Ardelier pour votre éclairage. Et pour conclure cette émission, nous ne pouvions pas ne pas recevoir une personne personnellement concernée, puisqu'il s'agit d'une étudiante à l'École supérieure de journalisme qui fait partie de cette génération Z. Christa James, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Donc vous représentez cette génération. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez globalement dans ce qui a été dit aujourd'hui par nos experts ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, complètement. Toutefois, je pense qu'il est important d'apporter une certaine nuance. De nos jours, ma génération, les jeunes, on a réellement conscience des enjeux du monde actuel, parce qu'on a vécu avec le téléphone dans la main, la notif, bonne ou mauvaise, directement, instantanée. Donc, on a l'habitude de ça. On ressent un vrai besoin de sens et de cohérence vis-à-vis de tout ce monde qui va très vite.
On a beaucoup parlé du travail, hein, et de votre rapport au travail. Alors certains disent manque d'engagement, d'autres corrigent, non, vous êtes totalement engagé. Vous personnellement, qu'est-ce que vous attendez de votre futur employeur ou de votre employeur actuel pour vous investir pleinement ?
Alors, personnellement, je pense que j'ai besoin d'entendre un dialogue intergénérationnel. Pour moi, c'est vraiment nécessaire. J'ai la chance, dans mon dernier stage, d'avoir une manageuse qui, avec qui j'ai pu réellement parler, communiquer. On a pu comprendre les codes, nos codes, à nous. Et on a trouvé un véritable équilibre, finalement. Donc, qui a raison, qui a tort, c'est pas ça qui est complètement, qui est concrètement, pardon, important. C'est plutôt, je dirais, respecter aussi la hiérarchie. Mais surtout de se comprendre, l'une et l'autre, donc les uns avec les autres.
Concrètement, vous dites que le chemin peut être différent, mais la finalité peut être commune à l'issue d'un dialogue.
Exactement.
Vous auriez un message à faire passer peut-être aux décideurs, aux employeurs ou aux responsables politiques pour qu'ils vous entendent mieux et qu'il y ait quelque part cette tolérance dont parlait Pierre-Étienne, mais aussi Pascal, pour que ce dialogue soit plus fluide?
Alors oui. Oui, vraiment, je pense que il faut réellement écouter les jeunes. Je pense, comme je vous ai dit auparavant, que ce besoin de dialogue, il est concrètement important. Mais si personnellement j'ai un message à faire passer, je pense que je parlerai de l'alternance. Aujourd'hui, plus d'un étudiant sur deux n'a pas trouvé son alternance en 2025. Donc je trouve ça complètement dommageable de ne pas pouvoir continuer des études qu'on aime. On a envie en fait de trouver un métier, donc
d'apporter une contribution et de vous former, et ça eu égard aux charges, on peut le dire ainsi, hein, du coût de l'alternance.
Exactement, donc je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes, leur faire confiance, voilà, comme je l'ai dit auparavant, trouver un certain équilibre, et si on nous en donne les moyens, on peut trouver un équilibre et
apporter
réellement
de belles choses et de belles contributions. Merci beaucoup.
Exactement.
Christa James. Le mot de la fin, Pascal, par rapport à ce témoignage, à l'inverse, est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez au quotidien avec vos étudiants?
Oui, oui, puis ça m'a touché cette alternance, parce que j'ai beaucoup d'étudiants en alternance et nuançons le fait qu'ils ne sont pas engagés, etc., etc. J'ai beaucoup d'étudiants en alternance sérieux, matures, motivés, engagés, donc faisons l'éloge de la génération Z. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est eux qui feront, je le répète, le monde de demain, et voilà, je pense qu'il faut être confiant, et puis à un moment, le principe de responsabilité et d'engagement, il s'impose, quelles que soient les valeurs, etc., etc. Donc, vive les aides.
Merci beaucoup. Merci.
Ça parle aux gens de ma génération.
Merci Pascal Lardelier, merci Pierre-Étienne Bost et merci Christa James. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube et à interagir sur les réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.